Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir un grand classique des récits bibliques du Nouveau Testament dans l'Évangile. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, nous allons prendre ce texte et commenter ce formidable message, parce que c'en est un formidable qui nous ouvre la porte à la compréhension de ce que peut signifier le mot conversion. Et nous avons là, eh bien, quelque chose de tout à fait, c'est à la fois singulier, c'est aussi tellement connu, répandu. C'est l'histoire d'un homme, comme à chaque fois, lorsqu'il rencontre Jésus, lorsqu'un homme rencontre Jésus, il change de nom, figurez-vous. Il y en a eu comme ça des personnages dans la Bible. Et il s'appelle à l'origine Saul de Tarse. Et c'est de lui que je voudrais parler ce matin. Parce que tout ce que nous en sommes ce matin, dans cette réunion, dans ce culte, c'est que nous avons fait une expérience qui est peut-être différente de la sienne, mais dans le fond, c'est toujours la même chose. Et je voudrais que nous puissions nous souvenir peut-être nous-mêmes de ce qui s'est passé dans notre vie, pourquoi nous sommes là et quel est le mobile et ce maintien dans la vie spirituelle. Parce que si nous nous maintenons dans la vie spirituelle, cette fidélité, cette persévérance, c'est que, eh bien, nous nous sommes convertis à Jésus-Christ. Ça, c'est une chose. Puis je voudrais le dire aussi pour nos amis qui nous rejoignent, c'est vrai, dans ce sens, qui peut-être sont en train de faire leur premier pas, peut-être pas sur le chemin de Damas, mais sur le chemin qui conduit à Jésus-Christ. Alors, on va faire cette lecture et puis j'apporterai un commentaire. Il y aura probablement ces originalités dans le commentaire, vous le découvrirez avec moi, parce que combien de fois nous avons parlé sur ce texte, mais il y a encore tellement de ressources, d'explications, et je crois qu'on pourrait y passer certainement des heures et des heures, simplement sur ce chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, et concernant particulièrement Saul de Tarse. Alors, 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le morte contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, qui existe toujours d'ailleurs, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints et aux chrétiens dans Jérusalem. » Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, ses forces lui revinrent. Voilà pour cette lecture connue. Et j'aimerais peut-être donner un titre ce matin à cette réflexion. On pourrait l'appeler le chemin de Damas. Mais je préférerais l'appeler le chemin de la rencontre. Parce que cette rencontre, eh bien, elle se fait encore aujourd'hui. Elle s'est faite à travers tous les temps, à travers les siècles, et elle se fait encore aujourd'hui, et nous pouvons nous réjouir de ce que nous pouvons constater ici et ailleurs, eh bien, qu'il y ait des hommes qui rencontrent le Seigneur, qui le découvrent, et qui empruntent ce même chemin, avec des formes différentes, mais dans le fond, c'est toujours la même chose. Rencontrer Jésus, c'est véritablement rencontrer la vie. Faire tomber nos illusions, nos préjugés. Et c'est bien ce qui s'est passé à travers l'histoire de ce fameux Saul. C'est un récit de conversion. Il s'appelle Saul de Tarse. C'est un homme très intelligent. C'est un, on pourrait dire, un rabbin pas comme les autres. Il a été élevé auprès d'un grand homme de la théologie judaïque et universitaire. Et nous voyons que, malgré tout ce qu'il connaît, c'est un petit peu, eh bien, un confrère à Nicodème, docteur de la loi, si vous aimez mieux peut-être. Et Saul de Tarse, c'est alias l'apôtre Paul. Alors si je change les noms en cours de route, vous saurez faire le lien entre Saul de Tarse, c'est le même que Paul, et Paul, c'est le même que Saul de Tarse. Mais il a changé de nom, figurez-vous. Avant, c'était son ancienne vie, Saul. Et puis maintenant, c'est la nouvelle vie. Il s'appelle Paul. Paul en grec, ça veut dire petit. Parce qu'avant, il pensait qu'il était grand. Il a fallu qu'il devienne petit pour devenir grand aux yeux de Dieu. Et ça, c'est finalement le mystère. Et c'est plus qu'un mystère, c'est un miracle de Dieu. Une expérience déterminante, nous l'avons faite. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à prendre en considération, parce que le dire, c'est un lieu commun, mais de dire que on ne naît pas chrétien, on le devient par une rencontre et une expérience. Ça, je le dis à chaque service de baptême, mais peut-être faut-il le rappeler ce matin, que quelque part, eh bien, il y a eu pour nous un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ, comme dans les livres d'histoire, figurez-vous. C'est vrai, hein? Et même si les écrivains et les historiens sont athées, ils disent toujours avant ou après Jésus-Christ. Où vont-ils chercher ça? La question, elle est là. Alors, figurez-vous, quand on prend en considération l'histoire de Saul de Tarse, l'étonnant dans cette affaire, c'est que Dieu laisse l'homme aller jusqu'au bout de ses passions ou de sa passion afin de voir jusqu'où la grâce divine peut le ramener vers le salut et également celui des autres. Parce que Paul a eu une vocation, hein. Il a eu une vocation, il a eu un apostolat, on peut le dire, c'est le mot, hein. Il est approprié pour lui en ce qui concerne. Il était apôtre, il était prophète, il était pasteur, il était évangéliste, il était docteur, il avait tout pour lui. Enfin, tout reçu. Et il dira, c'est pas moi. C'est Dieu qui m'a donné tout cela. Et c'est un homme, on peut dire, d'exception, puisque savez-vous que c'est lui qui a rempli le Nouveau Testament de 19 épîtres. C'est pas n'importe, pas de 19, de 13, excusez-moi, je fais une erreur. De 13 épîtres. Et il nous explique un petit peu la nouvelle naissance. Il nous explique ce que c'est que la conversion. Il nous explique ce qu'est la repentance. Il nous montre la vocation du chrétien, la vocation de l'Église. Et c'est vrai que lorsque l'on prend en considération par le détail ce qui nous est rapporté, ce que nous avons sur les yeux, on s'aperçoit que Dieu laisse faire. Il va laisser faire un homme, celui-ci dont nous parlons, aller jusqu'au bout de sa folie, de ses passions, de ses convictions de juif et de juif orthodoxe, nous pourrions dire, hein, vraiment, hein, même intégriste, hein, afin qu'à un moment ou un autre, la grâce l'atteigne. Qu'il y ait là, eh bien, une rencontre sur ce fameux chemin dont nous avons parlé, et cette grâce divine qu'il va recevoir, qui va le mettre par terre, eh bien, comment cette grâce divine peut aller très loin chercher un homme qui est dans l'illusion de sa croyance, de sa religion, dans l'illusion de ce que, en faisant le mal, il pense que c'est bien. Parce que c'était ça, Paul, hein. Jusqu'à tuer, il nous est dit qu'il respirait le crime et le meurtre. ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Et cette grâce qui revient, qui est donnée, eh bien, va faire de lui un homme nouveau. Et après, un serviteur de Dieu. Un homme qui va prêcher l'évangile, et ça ne sera pas seulement pour lui, mais ça sera pour tous les autres. Parce qu'il va être d'abord dans un premier temps à prêcher parmi les juifs, mais après il va devenir vraiment l'apôtre, eh bien, des païens. Et dans une grande mesure, on peut dire que sa vie, ses écrits, ses expériences nous servent encore 20 siècles après. Et ça, c'est quelque chose. Le salut des autres. Paul est appelé à servir Dieu et à devenir, eh bien, un instrument, ou je préférerais plutôt un agent entre les mains du Saint-Esprit pour réaliser la volonté de Dieu. Vous savez que dans le livre du prophète Ésaïe, et j'ajoute ceci tout de suite, il est dit cette parole, écoutez simplement. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. » Constatation. « Je te garderai. » Et Dieu sait si véritablement, lorsque l'on lit la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, il en a vu, hein, de toutes les couleurs. « Alors, je te garderai. Je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple. » L'apôtre Paul, c'est l'apôtre qui a véritablement, eh bien, mis en évidence la supériorité de la grâce et de la foi par rapport à la loi. Il n'était pas juif pour rien pour pouvoir expliquer la différence, hein. Traiter une alliance avec le peuple pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, ce qu'il a fait, pour faire sortir de prison les captifs, hein, et pas seulement ceux qui sont avec des chaînes dans des prisons matérielles, mais également ceux qui sont en prison à l'intérieur, dans leur âme, avec des conceptions, avec des doctrines, avec des philosophies, avec, nous pourrions dire, des théologies, et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Là, nous avons une très belle histoire, hein. L'histoire de Saul de Tarse réunit tout cela naturellement. Et figurez-vous que la conquête du cœur de cet homme, de celui qui deviendra Paul, ne s'est pas faite dans un temple. Ça aurait pu, parce qu'il fréquentait le temple en permanence. Ça ne s'est pas fait non plus dans une synagogue, parce que c'était véritablement, eh bien, son habitat, mais sur une route. Eh, que de rencontres sur une route. Vous vous souvenez de Philippe et de l'Éthiopien, la route qui va dans le désert, là, de Jérusalem à Gaza. Et puis il y en a d'autres comme ça, hein. Les disciples d'Emmaüs, on pourrait dire une reconversion, non. Mais véritablement une prise de conscience que Jésus est ressuscité, c'était quand même sur la route aussi. Ah, les routes, elles servent, hein. Elles servent de rencontres, de lieux de rencontres. Et nous le trouvons assez facilement dans la Bible. Mais il se trouve sur une route qui a plutôt un caractère moral, celle de la colère et du fanatisme aveugle. C'est cela, hein, écoutez. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples. Peut-être à l'instar de Moïse, hein, qui avait du sang sur les mains, c'est des hommes peut-être comme ça que Dieu aussi appelle. Il appelle aussi des hommes comme ça. Oui. Vous savez qu'il y a une œuvre qui se fait dans les prisons, les aumôneries de prison. Une œuvre, et on peut pas dire que ceux qui sont en prison sont véritablement, hein, des colombes. Hein. Non, il y a quelque chose qui se fait. Celui qui meurt sur la croix, vous savez, à côté de Jésus, là, hein, ce criminel, lui aussi, il rencontre. Alors, cette route de colère, et on l'a dit, hein, de fanatisme, c'est montré dans ce texte. Alors, il se rendit chez le souverain sacrificateur, l'homme des pouvoirs religieux, autorisé par, finalement, eh bien, l'Empire romain, parce que c'était à eux aussi qu'il était délégué, eh bien, de faire toutes ces choses, avec l'autorité de Rome, sous l'autorité de Rome, et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas. Damas, une grande ville, naturellement, parce que les disciples avaient fui de Jérusalem dans toutes les villes aux alentours. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Ils étaient beaucoup, nombreux, plusieurs synagogues, parce que c'est au pluriel, dans notre texte, vous le verrez. Les synagogues de Damas, afin qu'il se trouvât des partisans, s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, on l'appelle la voie de Jésus-Christ, le message de l'évangile, la première église, l'église première si vous voulez, hommes et femmes, il les amène à Jérusalem, pour qu'ils puissent être livrés, condamnés, jugés, et peut-être même exécutés. Voilà ce qu'il nous est dit sur l'apôtre. Et voilà qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est comme quand il était en chemin et qu'il approchait de Damas, il y a eu, eh bien, une chose extraordinaire, soudain, un tout à coup de Dieu en quelque sorte, et tout va se basculer dans l'inattendu pour Paul. Il y a deux choses, une lumière et une voix. À travers le verset 4, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Comme un éblouissement. Moi je voudrais vous dire que la conversion d'un homme ou d'une femme, c'est aussi un éblouissement. Je l'entendais dans un témoignage cette semaine, où véritablement, quand on se convertit, tout est beau, tout est magnifique. Moi, c'est mon expérience, personnellement. J'étais dans les ténèbres et dans le noir, dans l'obscurité. Et puis lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux, tout était formidable et beau. Quand les gens viennent pour la première fois dans nos réunions et qu'ils se convertissent, ils trouvent ça formidable. J'ai toujours l'habitude d'ajouter aussi, mais croyez bien que l'Église n'est pas parfaite, hein, parce que... Mais c'est vrai au départ. C'est formidable. Il y a des gens qui sont gentils. Vous êtes gentils quand même. J'en profite pour le dire. Mais bon, toujours est-il que c'est vrai, il y a un accueil, peut-être qui est tout à fait aux antipodes de ce qu'il y a dans le monde, où les gens ne se saluent pas, ils ne se parlent pas. On chante ensemble, il y a comme un caractère familial. Vous l'avez pas remarqué? Et moi, je tiens à ce que ce soit familial dans l'Église. Ouais. On n'est peut-être pas nombreux, mais en tous les cas, qu'on se sente bien en famille, vous comprenez? Et ça, c'est important de garder la paix et l'unité entre nous. Alors, un éblouissement, tout devient beau. Parce que si finalement notre cœur, eh bien, est illuminé, mais tout le reste va être illuminé. On vit dans un monde où il y a tant de tristesse, tant de dépression, tant de choses négatives. D'ailleurs, on nous entretient dans une nourriture morale négative. Alors, comment voulez-vous que les gens soient heureux? Et c'est un éblouissement pour Saul de Tarse. Parce que c'est simplement cette lumière qui est capable de chasser et de vaincre les épaisses ténèbres d'une âme forcenée comme celle de Paul, celle de Saul. Oui, chasser ces ténèbres. Et c'est pour ça qu'il écrira un peu plus tard, je pense que c'est dans Corinthiens, il parlera des forteresses de l'entendement. Parce que lui, c'était un forcené. Il y avait que lui qui avait raison. Il y avait que son Dieu qu'il adorait qui avait raison. Et tous les autres, c'était tous des mécréants, en quelque sorte. Il avait une vue très restreinte, Paul. Ça le rendait fou de ce que les autres n'étaient pas comme lui. Ah, pharisien, qui dit que tu es le meilleur, que tu fais ceci, que tu fais cela. C'est quelque chose de terrible, hein, cette conception tellement restrictive, tellement juge et qui condamne tout, ce qui n'est pas soi. Ce qui n'est pas nous, ce qui n'est pas ce que nous pensons. Le monde a de beaux jours devant lui, hein. Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, hein. L'intégrisme et tout cela. Paul était un intégriste. Oh, aujourd'hui, il serait peut-être là, mais version juive, hein. Il serait certainement parmi les équipes de Daesh. Hein. Certainement. C'est pour ça que on peut relever, hein. Forteresse d'entendement. Une âme, celle de Saul, une âme illuminé, ou plutôt même illusionné par le préjugé religieux. Ah oui. C'était ça, Paul. C'était ça, Saul, d'abord. Oui, préjugé religieux. Un peu plus tard, il nous est donné, oui, cette parole. Dieu va lui dire, Jésus qui lui apparaît va lui dire, mais pourquoi me persécutes-tu? Alors il répond, mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur va lui répondre, mais je suis Jésus que tu persécutes. Parce qu'il ne faut pas oublier que Paul avait déjà certainement entendu précédemment, de loin, certainement de très loin, eh bien, l'histoire de ce de ce juif de Galilée qui s'appelait Yeshua, Jésus. D'ailleurs, il était au moment de la condamnation d'Étienne, il était là, et il a certainement entendu ces paroles extraordinaires, inspirées par l'Esprit de Dieu, juste avant que Étienne ne meure, ce qu'Étienne pouvait dire de Jésus. Donc il était pas sans connaître, mais il connaissait, mais il ne voulait pas accepter. Alors, illusionné par le préjugé religieux, Jésus l'appelle par son nom, figurez-vous, comme il nous connaît bien. Et il l'appelle Saul, parce que Jésus veut faire de lui, avec lui quelque chose de grand, quelque chose de formidable, qui va être un témoignage pour le monde entier, d'hier et d'aujourd'hui, et encore il demeure. parce que c'est un dangereux imposteur qui lutte avec une haine féroce contre ce qu'il croit être une secte maudite, c'est-à-dire une secte d'illuminés et d'ignorants, les chrétiens. C'est comme ça que ça se passait à cette époque, hein. Les chrétiens, oui. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui a donné sa vie et puis on le proclame dans le monde entier? Mais, et pourtant, Paul ne le sait pas encore. Mais lui, juif, finalement, ce Jésus, c'est le Messie d'Israël. Mais il ne le sait pas encore, naturellement. Alors il va mettre dans la bataille, dans la guerre, toutes ses forces d'opposition. Et il va le faire avec, eh bien là, une pugnacité terrible, parce que il se dit, il faut nettoyer la terre de ces gens-là. Faut que les chrétiens n'existent plus. Eh, peut-être que c'était une façon d'exprimer ce que les nations pouvaient dire aussi d'Israël. Il faut qu'Israël disparaisse de la terre. Et aujourd'hui, on veut encore qu'Israël disparaisse de la terre, de la surface de la terre. Qu'on ne prononce plus son nom. Et lui, il va devenir finalement, lui, victime de cette opposition du monde. Il va devenir, lui, en ce qui concerne le christianisme, la même chose. C'est terrible, hein. Et il s'en aperçoit pas, il a les yeux fermés. Et doublement fermés, puisqu'on va le souligner d'ici quelques instants. Ouais, secte maudite que le christianisme. Des illuminés, tout simplement. Mais il ne sait pas aussi, Saul, que l'ignorance est lui. Ah, les jugements. Ouais, les jugements. Paul l'écrira parce qu'il a compris la leçon, hein. Quand il dira au chapitre 2 de Romains, mais il dira, mais toi le juif, tu juges les autres, mais tu fais la même chose. Quelle aberration, quel obscurantiste les gens peuvent être. Dans quel obscurantisme peuvent-ils être? Et ça n'a pas changé. Tant qu'un homme n'est pas converti, il restera ce qu'il est. Et il reproduira la même chose. Il vivra les mêmes choses. Il fera subir les mêmes choses. Mais sans s'en apercevoir. En se donnant de bonnes raisons que, eh bien, c'est lui qui est dans la vérité. Et l'ignorance, c'est lui, puisque Saul le confesse. Il dira, mais qui es-tu, Seigneur? Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a été bercé dans le judaïsme, qui a été pétri dans ce qu'il pouvait y avoir de meilleur dans la connaissance du Dieu d'Israël, de la loi et des prophètes, lui va poser la question, mais qui es-tu, Seigneur? C'est terrible. Mais quand on commence à se poser cette question-là, c'est que ça prend déjà une bonne tournure. Quand on se remet en cause. Mais là, il a fallu qu'il soit secoué, hein. Il a fallu qu'il soit vraiment ébranlé. Mais qui es-tu, Seigneur? Et vous savez, je voudrais vous dire une grande vérité, c'est qu'il faut tomber pour se relever. Particulièrement pour les orgueilleux. Particulièrement pour ceux qui se croient supérieurs aux autres. Pour ceux qui se disent ou qui mettent en avant, eh bien, leur privilège d'être. Je pense que les confrontations de notre siècle vont être à ce niveau. On le voit et on a peur. Le monde a peur. Et il y a de quoi avoir peur. Parce que tous les totalitarismes, tous les intégrismes reviennent en surface. On croit qu'ils disparaissent, mais ils sont là. Parce que tant que le cœur de l'homme n'a pas été changé, transformé, que la haine n'a pas été changée en amour, eh bien ça demeurera. Et ça demeurera jusqu'à la fin des temps. Je le crois en tous les cas. Qui es-tu, Seigneur? Alors, comme il faut tomber pour être relevé, eh bien, il nous est dit qu'il tomba par terre. Imaginez-vous. Enfin, je me réjouis qu'à chaque fois qu'il y a une conversion, ceux qui se convertissent ne tombent pas par terre. Hein. Parce que les visites, on les ferait peut-être à la cité sanitaire. Hein. Mais quelque part, on tombe par terre. Eh oui. Et il faut, parce que c'est une nécessité. Il est tombé. Tout simplement. Ça, c'est étonnant pour un homme qui tenait debout, hein. Et lui, il avait certainement de bonnes jambes, hein. Certainement. Mais il est tombé. Saul de Tarse, eh bien, nous montre l'exemple de ce que peut être une capitulation. Une abdication de ce que l'homme a en ce moment, eh bien là, craque devant Dieu. Et il arrête de combattre, il arrête de raisonner. Les forteresses, les Jérichos de notre entendement, de notre raison, si bonne soit-elle, eh bien, va véritablement s'effriter. Ce sont les pierres de la forteresse de Jéricho qui sont tombées, hein. Miraculeusement, une conversion, c'est miraculeux. On s'extasie devant l'aveugle qui voit, le boiteux qui marche, et puis les choses extraordinaires, c'est bien, merci Seigneur. Mais moi, je crois que la plus grande de toutes les choses, c'est une conversion et une nouvelle naissance. Ça, c'est ce qui demeure. Et n'oublions pas, dans nos églises, et prions pour que les prédicateurs des temps à venir continuent à prêcher la conversion, la repentance et la nouvelle naissance, et de ne pas s'éloigner dans toutes sortes de terrains qui n'ont plus rien à voir avec le message de l'Évangile. Il tombe par terre, il abdique, sa conscience, elle va craquer, elle va céder, tout simplement, devant l'évidence de la vérité. Jésus lui apparaît dans une lumière, un éblouissement, et là, il va crier, mais qui es-tu Seigneur? Je ne te connais pas. Oui, effectivement, il ne le connaît pas, comme il faudrait le connaître. Et après, quand on voit la passion de Paul pour Jésus, cet homme qui va aimer Jésus par-dessus tout, jusqu'à donner sa vie, jusqu'à se sacrifier lui-même, on peut se dire que ça, c'est un miracle. Hein. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un arriver qui revient de loin, c'est pas la peine de faire le bilan et d'introspecter ce qu'il a été, ce que nous avons été nous-mêmes, et d'essayer d'extirper soi-disant ce mal ancien ou ce mal du passé. Ça, c'est l'affaire du Seigneur. Hein. Vous savez, la vraie cure d'âme, hein. C'est pas celle où on tripote les âmes, essayer de chercher de droite et de gauche. La vraie cure d'âme, eh bien, elle se fait avec la parole de Dieu. Moi, j'en suis convaincu. Maintenant qu'on apporte une aide, un accompagnement, mais que l'on cherche là dans toutes sortes de choses, moi je dis que quelquefois ça peut être très malsain. Malsain pour celui qui se livre et malsain pour celui qui accompagne. Parce que ça se passe devant Dieu. Et la véritable guérison, elle est là. La parole de Dieu nous guérit. Et je voudrais vous le dire parce que moi, elle m'a guéri, la parole de Dieu, quand je me suis converti. Elle m'a délivré de ce que j'étais. Et j'ai pas eu besoin de cure d'âme. C'est l'Esprit de Dieu qui, véritablement, nous libère, qui nous guérit. C'est l'Esprit de Dieu. Quelquefois, on prend la place de l'Esprit du Seigneur. Alors, il est convaincu de la vérité à ce moment-là, et il est prêt à obéir. Enfin, que veux-tu que je fasse? Jamais Paul, jamais Saul n'aurait dit une parole pareille. Au contraire, parce que tout ce qu'il pouvait faire, mais Seigneur, Dieu d'Israël, je te sers et tu armes mes mains. Tu me donnes véritablement l'épée de ton jugement. Et puis on va s'occuper de tous ces mécréants, ces chrétiens. Non. Mais là, à ce moment-là, il est dans cette disposition de dire, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? On sent un homme qui est au bout du bout. Il faut quelquefois arriver au bout pour rejaillir et rebondir. Alors, ne nous décourageons pas lorsque, au moment de la conversion, et je parle pour ceux qui sont en approche, lorsque vous avez des combats et des luttes, de dire « j'y arriverai pas », mais vous y arriverez. Peut-être vous pensez en disant « mais mon passé, mon histoire est tellement grave, tellement sale, tellement je me sens indigne ». Eh bien, c'est que le Seigneur est en train de vous préparer finalement pour vous nettoyer, pour vous purifier, et faire de vous une nouvelle créature. Alors des combats, des luttes, il y en a, mais ne vous découragez pas, c'est le Seigneur qui vous a appelé, il vous conduira jusqu'au bout. Il vous a appelé, parce que vous n'êtes pas là ici pour rien. Hein. Tant à Redon, à Saint-Nazaire, on voit les gens arriver. Et je me dis, moi, quand je les vois arriver, c'est pas moi qui étais les chercher. C'est pas avec le fruit des prospectus ou des journaux que l'on distribue. C'est pas avec ceci et cela, parce que nous prions, et vous priez, et nous prions tous les jours pour que Dieu nous envoie des hommes comme des Saul de Tarse, comme des Siméon, comme des Cornels, comme des Lydies. Et lui, il les connaît, c'est lui qui les amène, c'est lui qui les suscite à pousser la porte de nos salles et à lire la Bible. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 1 mois, naturellement, hein, plus court, d'une manière ou d'une autre, mais c'est Dieu qui nous appelle. Quelquefois, on s'évertue à faire beaucoup de choses pour remuer ciel et terre, pour dire, voilà, Seigneur, eh bien, on va gagner des âmes, mais c'est pas nous qui les gagnons, les âmes. C'est le Seigneur qui les a gagnées, et c'est lui qui les appelle. Lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai, voilà, c'est, merci pour votre aide, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais moi, c'est ce qui me réjouit, quand je vois des gens qui arrivent et qui sont même pas reçu le témoignage, ou quelquefois le témoignage de gens de l'extérieur, vous rendez compte, faut le faire. Alors, que veux-tu que je fasse? Eh bien, en quelque sorte, si nous pouvons synthétiser la chose, c'est mourir à moi-même. Voilà, d'abord, ça commence pareil. Et l'orgueil est vaincu. Le verset 6 nous dit en substance, il est dit cette parole, « Tremblant et saisi d'effroi, il dit, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Nous venons de nous dire. Et le Seigneur lui dit, « Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » L'homme fort, intraitable, et tremblant et saisi d'effroi. Ah, c'était pas quelqu'un qui tremblait avec les feuilles, hein. Qui ne se laissait pas impressionner par tous les vents, Saul. Non, mais là, il tremble. Parce qu'il a trouvé plus fort. Il a trouvé son maître. Non pas pour être écrasé comme lui, écraser les autres. Mais pour devenir autre chose. Une autre personne. Il est saisi à ce moment-là d'une épouvantable crainte qui, une épouvantable peur qui fait craindre Dieu. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu ? C'est pas la crainte légaliste en disant, voilà, Seigneur, j'ai peur de toi, etc. Non, la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Dieu existe, Dieu est. Dieu est Dieu. Et là, à ce moment-là, ça change les choses. Oui, ça change beaucoup de choses. Et nous le voyons, tout simplement, eh bien, se mettre aux pieds de Jésus, en quelque sorte. Il se cramponne, Paul. Il se cramponne désespérément à la grâce, parce que la grâce, il vient de le comprendre pour la première fois de sa vie, c'est son unique espoir. Sa force, certes, est anéantie. Il est brisé sur les ruines de sa propre justice, d'orgueil religieux, de pharisien qu'il est. Et c'est là-dessus que Dieu va commencer à construire quelque chose de nouveau. Et il a fallu pas moins qu'il soit cassé pour renaître et mourir pour revivre. Et ça, c'est le principe même, eh bien, de la conversion. Ouais. Il y a des gens qui prétendent être convertis, mais les fruits qu'ils portent ne sont pas des fruits de la repentance. On le voit. Et tant que le travail n'a pas été fait, ce sont des gens qui portent préjudice à l'œuvre de Dieu. Ouais. Ah, ils ont peut-être la phrasiologie, peut-être du christianisme ou de l'évangile. Mais à l'intérieur, ils n'ont pas été cassés ni brisés. Et c'est pour ça qu'ils continuent à briser et casser leurs frères et leurs sœurs. Parce que ça, c'est une œuvre de Dieu. Prions, mes frères et sœurs, et vous m'entendez souvent le dire, prions pour que les frères et les sœurs qui nous rejoignent, qui vont devenir nos frères et nos sœurs, que nous accueillons dans la famille de Dieu, soient authentiquement repentis, convertis et mis de nouveau à Jésus-Christ. Et ils iront loin. Et Dieu va se servir d'eux. Mais autrement, sa porte et les églises ont eu à souffrir. Et elles souffriront encore. De gens qui sont à moitié convertis. Vous allez me dire, mais on l'est ou on l'est pas. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que quelquefois, dans la constatation, on a vu qu'ils étaient qu'à moitié. En apparence. Où là, ils sont encore remplis d'orgueil. Remplis de prétentions. Moi, 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 moi. Mais non. Jean-Baptiste nous donne l'exemple. Quand il dira, mais il faut que je diminue pour que lui croisse. Et là, l'œuvre de Dieu va se faire à travers chacun d'entre nous. Et c'est une belle œuvre. Une œuvre merveilleuse. Une œuvre étonnante. Alors, dans la suite de notre récit, il nous est simplement rappelé les hommes qui l'accompagnaient. Alors, je reprends un petit peu. Que veux-tu que je fasse ? Le Seigneur lui dit, mais lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir, et ne mangea ni ne but. Ouais. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait parce que c'était le chemin. Quand ce fameux Ananias va intervenir dans le récit, on va en parler d'ici quelques temps, il va dire, mais tu m'envoies vers cet homme ? C'est un furieux, c'est un malade, ce Saul de Tarse. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Le Seigneur va répondre à Ananias deux mots. Tu peux aller vers lui parce qu'il prie. Ça veut tout dire. Il prie. Prier, c'est avouer son besoin impérieux de Dieu. Le besoin impérieux de secours de Dieu, de son pardon, c'est ouvrir son cœur afin que Dieu y occupe toute la première place. Et c'est bien ce que nous trouvons toujours dans les écrits de Paul, parce que il parle de son expérience. Vous savez, on ne fait pas toujours le rapport entre ce que nous lisons des épîtres dans les épîtres de Paul et puis sa propre conversion. Au chapitre 2, au verset 20, vous savez ce qu'il est dit. Et là, il va confesser vraiment d'une manière admirable. Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous ne pouvons pas dire la même chose? Oui, Seigneur, moi je veux en tous les cas, même si ce n'est pas toujours une réalité parce que je reste un homme, je reste avec mes vulnérabilités, avec mes fragilités, avec mes tentations. Mais est-ce que je ne peux pas dire, quelque part, cette parole, j'ai été crucifié avec Christ, donc je suis mort avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi donc, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je maintenant je vis dans la chair, c'est-à-dire dans mon humanité, eh bien, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tout simplement, ça, c'est l'histoire encore de Paul. Alors, je t'envoie, Ananias, vers cet homme qui te fait peur, qui est redoutable, mais ne crains rien, il prie. C'est déjà quelque chose. Et afin, tu lui imposes les mains et qu'il recouvre la vue. Ouais. Qu'il recouvre la vue. On en reparlera d'ici quelques instants. Il est aveuglé. Il est aveuglé et il découvre à ce moment-là ce qu'est la puissance et la gloire de Jésus. Alors sa rage de persécuteur va se transformer en foi. Et c'est une révélation. Et il va passer, comme nous l'avons lu il y a un instant, par un sas de conversion. Alors, excusez-moi le mot, j'ai pas trouvé autre chose, mais cette période-là qui va être limitée, mais elle est nécessaire. À un moment donné, dans notre approche de Jésus, il y a un temps, après avoir entendu la parole ou en entendant la parole, Dieu nous met de côté. Et là, il va nous parler. Oui. Il nous est dit que pour Israël, dans une prophétie plus loin, dans l'Ancien Testament, il nous est dit que Dieu conduisit Israël au désert pour parler à son cœur. Et à un moment donné, Dieu nous parle. Dans des moments de trouble, dans des moments où nous sommes en train de découvrir ce que c'est que la vie de Dieu, eh bien, il nous met finalement dans ce sas de préparation. Et il est resté 3 jours. Que s'est-il passé pendant les 3 jours? Le noir et l'obscurité, on le comprend physiquement. Un jeûne obligé, c'est pas lui qui a déclaré un jeûne, hein. C'était impératif. Des luttes intérieures, comme nous pouvons en connaître lorsque nous approchons de Dieu. Une impuissance totale, lui qui se sentait tout puissant auparavant, qui vont produire un changement radical de la vie et de la mentalité de cet homme. Oui, on ne pense plus pareil. On n'est plus pareil. Comme on le disait, il y a un avant et un après. C'est ça la conversion. Et toutes ces choses réunies pendant ces 3 jours dans la vie qui vont investir le corps et l'âme de Paul vont produire un changement radical. Et dans sa façon de penser, ça va plus être pareil. Oui, on ne pense plus comme le monde pense. On n'est plus du monde. On n'a plus l'esprit du monde. On vit dans le monde, mais sans avoir l'esprit. C'est ça la conversion. Un changement, dépouillement, une mutation. Et voilà qu'il apparaît une nouvelle créature, une nouvelle création, une nouvelle naissance, un homme nouveau. Saul de Tarse est devenu Paul. Il va porter le nom de Paul, petit, parce qu'il sera petit maintenant, devant les hommes et à ses propres yeux, mais il sera grand devant Dieu. La différence. Plus tard et beaucoup plus tard, Paul, en l'écrivant, il expliquera ce qu'est la repentance. Permettez-moi, même si vous pensez que je répète toujours les mêmes choses, mais je voudrais vous donner le principe de la repentance, ce que c'est bibliquement, faut le dire. Hein. Il écrira, il dira ceci au chapitre 7 et au verset 10 de 2 Corinthiens. Il dira que votre tristesse vous a porté à la repentance. On passe par un temps de tristesse, de mort à soi-même. Quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. On n'a pas forcément envie de rire. On a envie de pleurer. Mais pleurer pourquoi? Car vous avez été attristés selon Dieu. Les épreuves que nous traversons au moment de la conversion, c'est Dieu qui les permet. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Nous ne pouvons pas regretter un jour d'avoir rencontré Jésus, de lui avoir donné notre vie, d'avoir abdiqué sur beaucoup de choses, de s'être laissé conduire dans une autre route, sur une autre voie. Moi, je ne peux pas dire que je regrette ma vie passée. Au contraire, je bénis le Seigneur et... Lorsque nous louons le Seigneur, là, dans nos réunions, eh bien, nous disons, mais Seigneur, tu as été extraordinaire et merveilleux. C'est vrai que nous avons pleuré. C'est vrai que nous avons été accablés. C'est vrai que nous avons dû laisser des choses. Ou Dieu peut-être nous a pris des choses. Il nous a enlevé des choses. Mais aujourd'hui, je ne les regrette pas. Parce que j'ai plus que toutes ces choses que j'ai abandonnées. J'ai Jésus dans ma vie. Et j'ai tout avec Jésus, puisque nous avons tout pleinement en lui, n'est-ce pas? Tristesse. On ne se repent pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort, le regret et le remords. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Oui, c'est une expérience extraordinaire et formidable, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il expliquera également ce que c'est que l'enfantement à la vie spirituelle. Lorsque il l'écrira avec des lettres de feu, parce que c'est comme cela, hein, quand il dira ceci, mais il dira, mais la loi, elle est spirituelle. Et c'était un homme de loi, hein, un juif. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais ce que je ne veux pas, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, c'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui est en moi. Et après avoir dit pas mal de choses dans ce chapitre 7 de Romains, il dira, mais maintenant j'ai découvert qu'il y a quelque chose de nouveau. Misérable que je suis, il pleure sur sa misère morale et spirituelle. Qui me délivrera du corps de cette mort? Et il dira ces paroles, grâce soit rendue à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça ce qui a fait le basculement finalement. Ainsi, celui qui voulait emmener les chrétiens à leur condamnation, c'est lui qui devient le prisonnier. C'est ce que nous lisons au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, me voici Seigneur, et lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas, et nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu, finalement en vision, que tu viendrais vers lui, que tu lui imposerais les mains, et que là il recouvrirait la vue, et qu'il y aurait véritablement maintenant de nouvelles perspectives pour cet homme. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que Dieu a envoyé Ananias vers Paul. Il aurait pu lui envoyer un autre apôtre, et des hommes considérés de ce temps-là, les apôtres. Non, parce qu'Ananias n'est pas un apôtre. Ananias est un chrétien comme les autres. Et heureusement que Paul, l'homme que nous connaissons maintenant, ce n'était pas un Pierre ou un Jean ou un Jacques qui est venu lui imposer les mains. Parce qu'il aurait pu dire plus tard, faussement, il aurait pu dire, mais moi je suis né de nouveau à cause du ministère de celui-ci et de celui-là. Ça le gardait dans l'humilité, parce que lui ne faisait pas partie des douze. Lui, il était le 12e apôtre, on peut dire, mais c'est par révélation, d'ailleurs il l'écrira, que j'ai eu le mystère de ces choses. C'est une conversion directe. Oui. Toutes nos conversions, elles sont passées par des hommes, des pasteurs, on pourrait dire. Mais lui, il n'est pas passé par un homme considéré, un apôtre, pas du tout. Mais c'est un homme qui est obéissant, il est dévoué, il est courageux, il faut l'être, il est intelligent à la voix de l'esprit, parce que il a des restrictions, il a des craintes et des peurs, mais il y va quand même, en quelque sorte. Et il apparaît ici ensuite, dans ce texte, et après on ne parlera plus d'Ananias. Qu'est-ce qu'il est devenu? Moi, je pense que Paul, certainement dans la suite, s'est souvenu de lui, de cet homme qui était l'agent humble et courageux pour lui apporter le témoignage de sa délivrance. On n'entend plus parler de lui, hein. Alors, comme il a peur, Ananias, Dieu va lui donner une garantie d'approche en sécurité parce qu'il est chargé de cette mission pour parler à Saul de Tarse, le pharisien réputé dangereux, agressif et redouté. Eh oui, nous l'avons lu, mais nous avons entendu dire qu'il faisait ceci, qu'il est venu à Damas pour ceci et cela. Et je reviens sur ce que nous avons dit tout à l'heure. Le Seigneur va lui dire, mais n'aie pas peur, il prie. Il ne prie plus en fanatique, il ne prie plus en pharisien, mais pour la première fois, réellement, sincèrement et solitaire, Saul de Tarse n'inspire plus la terreur. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il prie dans la foi, il ne prie plus selon la loi. Il prie dans la foi est dans la grâce. Alors il se cramponne, nous pouvons dire désespérément, tout simplement, parce que le Seigneur a fait son œuvre. Sa force d'homme, sa force religieuse, ses convictions qu'il croit être vraies et justes, lui apparaissent comme rien maintenant. D'ailleurs, il l'écrira dans Philippiens, il dira « Mais je regardais ces choses, maintenant je les regarde comme de la boue. » Vous connaissez le texte, hein? Ouais. Parce que j'ai gagné Christ, parce que Christ m'a gagné. Il prie, tout simplement. Alors, qu'il recouvre la vue. C'est vrai, les yeux du corps, mais surtout ceux de l'âme, de l'esprit, de la conscience. C'est ce qui nous est rapporté dans L'évangile de Jean, quand Jésus va guérir cet homme qui est aveugle de naissance, qu'est-ce qu'il dira comme témoignage devant ceux qui vont nier sa guérison? Il dira « J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Et c'est ça justement le crédit. « J'étais, mais maintenant je suis. » J'étais ceci, j'étais aveugle, mais aujourd'hui, mais Dieu a ouvert mes yeux. Et vous savez, notre témoignage à chacun, c'est notre expérience. Ouais. Et à chaque fois que les uns et les autres, on pourrait remplir des pages et des pages supplémentaires de notre Bible, par les temps actuels, avec la manière dont Dieu nous a appelés. J'étais aveugle, mais maintenant je vois, ça changeait les choses. Le verset 17, et je vais terminer. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère. Il a plus peur, il l'appelle son frère, hein, donc il le reconnaît. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Eh oui, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Plus de place ni de trace dans le cœur de Saul que la vie de Jésus. Et c'est bien cela, finalement, qui fait la valeur de notre christianisme. Christ en soi et la nouvelle naissance procède toujours, finalement, de l'action du Saint-Esprit. Ça peut pas être autrement. Parce que l'amour va chasser la haine dans le cœur de Saul. La vérité va expulser l'erreur. Et quelle sagesse, quelle intelligence de ce mystère de Dieu, parce que je crois que personne n'a égalé l'apôtre Paul dans la manière dont il parle, finalement, de l'Église, dont il parle du ciel, dont il parle de la destination future des chrétiens, dont il parle du retour de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, une intelligence qui n'était pas l'intelligence de l'homme. Mais ça, c'est par l'Esprit, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'œil n'a pas entendues, enfin que l'oreille n'a pas entendues, mais des choses qui viennent finalement eh bien, de Dieu et de son Esprit. Et Paul a été véritablement le grand théologien, hein. Il a été vraiment le fondateur de l'Église chrétienne, enfin celui qui l'a structuré en tous les cas. Ouais, la plénitude. Et puis il y a eu un fait particulier que je voudrais souligner. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Un voile d'opacité tel que peut le produire la religion humaine. Les forteresses de l'entendement dont les gens sont blindés, à travers les traditions, à travers le ritualisme, à travers le légalisme, à travers toutes sortes de choses, va s'éventrer. Ce voile opaque est enlevé et c'est voir les réalités du monde visible telles qu'elles sont à la lumière du monde invisible et spirituel. C'est ça la nouvelle naissance. Ouais, c'est ça la nouvelle naissance. J'essaie de décortiquer un peu tout cela pour nous montrer qu'il y a un processus, mais c'était pas un processus humain. Ça ne procède pas du cœur de l'homme, sinon notre assentiment à répondre « Oui, oui Seigneur, me voici, je me donne à toi. » Mais ça vient de beaucoup plus profond, de beaucoup plus haut, nous pourrions dire. Ouais, ces réalités du monde visible. Et vous savez, l'expérience que l'on peut faire quand on lit la Bible, quand on persévère à lire la Bible, c'est qu'il y a des choses que nous ne comprenions pas auparavant et qui nous sont révélées encore aujourd'hui. Je te loue, Père, de ce que tu caches chez Saul aux sages et aux intelligents, comme Saul de Tarse l'était, mais de ce que tu le révèles aux enfants, des hommes, des femmes, qui ont le cœur ouvert, accessible à cette compréhension. Et c'est pour nous, ce n'est plus un mystère. Quand Paul dit « je dis un mystère », ce n'est plus un mystère, parce que Dieu nous en a donné la compréhension et la révélation. On a raison, et Jésus a raison, et je voudrais simplement citer ceci. Quand il dit « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Merci Seigneur pour cette lumière. Merci pour cet éblouissement. Merci pour cette compréhension que nous pouvons avoir de ta parole. Parce que nous l'avons vu il y a une quinzaine de jours. Pour certains, c'est un livre cacheté, c'est un livre fermé la Bible. Ils peuvent être théologiens, ils peuvent être passés par la faculté de théologie d'ici ou d'ailleurs. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent que d'une manière superficielle et humaine. Intellectuel, cérébral, mais c'est extraordinaire de ce que Dieu a choisi des simples hommes pour leur donner la révélation finalement des mystères, des choses extraordinaires. Je suis donc la lumière, nous dit Jésus. Il y a trois injonctions sur lesquelles je finis. Il y a trois lève-toi. Et je voudrais insister ce matin parce qu'il y a des amis qui nous rejoignent, des frères et des sœurs, des sympathisants qui sont au milieu de nous. Et je voudrais vous dire, ces paroles, moi je les ai reçues dans mon cœur en préparant ce message, pour que vous puissiez vous lever pour Jésus. Parce que Paul était couché, il était par terre, il était tombé à terre, mais à un moment donné, le Seigneur va nous chercher, là nous sommes dans la poussière, pour nous dire, lève-toi, il y a de l'espoir. Ne reste pas dans ta situation, ne reste pas dans ta misère, dans ta dépression, ne reste pas dans ton carcan, peut-être de préjugés aussi, mais lève-toi. Le premier lève-toi est suivi de « on te dira ce que tu devras faire ». Vous l'avez lu avec moi, hein ? « On te dira, lève-toi maintenant, on te dira ce que tu dois faire ». La parole de Dieu est suffisante, le Saint-Esprit est suffisant pour savoir ce que vous aurez à faire ensuite. Paul, à ce moment-là, s'est relevé de terre, parce que il était tombé suite à la chute. Et cette chute a deux, on peut la considérer sous deux plans. Il y a la chute originelle, dans le péché et dans le mal, et lui, sans le savoir, il était dans le péché et dans le mal, en combattant, finalement, eh bien, contre le christianisme naissant. Mais le Seigneur nous relève de la chute pour nous amener à la sainteté, pour nous amener à une autre dimension, parce qu'il y a une chute qui tue, c'est celle, finalement, de la corruption et de la mort liée à la chair, et il y a une chute qui fait revivre, et c'est celle dont nous parlons ce matin. Alors il se leva et se fut baptisé. Troisième aspect de se lever, de se lever pour Paul. Il se leva et fut baptisé. Pour Paul, ça n'a certainement pas été un devoir. Ça n'a pas été une obligation, une contrainte religieuse d'une manière ou d'une autre de cette nouvelle religion qu'il était en train, qu'il méconnaissait, mais qu'il finalement venait de découvrir. Mais se faire baptiser, c'est un bonheur de faire la volonté de Dieu. Je crois et je m'engage. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... C'est simple hein, ce matin, hein, mes amis. Il va y avoir bientôt un service de baptême, je vais vous le dire. Il y en a un début juin. Vous avez prié pour ça, non? Ça va avoir l'air de vous surprendre. Il y a un prochain service de baptême début juin. Voilà. Alors, on se réjouit parce qu'on a prié pour qu'il y en ait un. C'est pas moi qui ai fixé la date, c'est parce que les choses se sont présentées de cette manière et c'est bien. Voilà. Et c'est bien. Et moi, je voudrais dire que tous ceux qui viennent, qui sont en train de découvrir, mais qu'est-ce que c'est que le baptême? Eh bien, le baptême, c'est un acte d'obéissance à Dieu et non pas une adhésion à une église. Et c'est un témoignage public que nous rentrons que Jésus est notre sauveur. Qu'il a fait cette œuvre dans notre cœur par son esprit, la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. Et là, vous rentrez dans une famille qui n'est plus la famille humaine, mais qui n'est pas seulement une famille humaine, mais une famille spirituelle. Alors, il s'est levé, il a été baptisé, tout simplement. Et c'est ainsi, et je termine, que ses forces revinrent. J'aime bien cette petite expression, que ses forces revinrent. Est-ce que nous vivons réellement quand on n'a pas Jésus dans sa vie? Nous sommes asthéniques. Nous sommes malades. Il nous manque une dimension, parce que nous avons été créés, être tripartite que nous sommes, corps, âme et esprit. Et si l'esprit n'est pas, eh bien ça ne peut être que la mort. Mais une chose qui est certaine, c'est que Paul, après avoir fait cette expérience, alors il nous a dit qu'il lui a donné de la nourriture, mais moi je crois qu'après tout ce cheminement, ses forces revinrent. Vous voulez que la vie revienne, peut-être? Vous voulez qu'il y ait un souffle nouveau dans votre vie? Vous voulez être baptisé du Saint-Esprit? Vous voulez que des choses se passent dans votre existence? Eh bien écoutez, vous savez ce qu'il faut faire. Les forces de Paul sont revenues le jour où il a obéi. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous ouvre la porte. À travers cette histoire que nous avons, eh bien, considérée ce matin. Mais c'est pour vous, mes amis. Ouais. Parce que je crois que Dieu vous appelle. Et vous êtes appelés par le Seigneur. Et qu'en sera-t-il de cet homme qui, de Saul de Tarse, est devenu l'apôtre Paul? Un homme dont Dieu s'est servi d'une manière admirable pour notre bonheur et notre bien aujourd'hui, 2000 ans après. Et qu'en sera-t-il de vous, lorsque vous aurez pris position devant le Seigneur, que vous vous serez levé pour entendre ce que vous avez à faire, que vous serez levé également pour être baptisé, pour vous engager d'une manière courageuse de dire, eh bien moi maintenant, je crois que Jésus est mon sauveur, et je le confesse et je le dis au monde entier. Alors à ce moment-là, vos forces vont revenir. Toutes les choses contre lesquelles vous ramez, Quelquefois, vous ramez contraire toutes sortes de choses. C'est pas que la vie chrétienne, c'est quelque chose, une histoire fleur bleue, non. Mais nous ne sommes plus tout seuls aujourd'hui. Christ n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous. Et il vit en nous, et ça change tout. Alors, converti et saisi par la grâce, qu'en sera-t-il de chacun d'entre vous? Oh, laissez-moi terminer. Je relis cette parole. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Mes amis, Dieu vous a appelé pour le salut. C'est de l'évangélisation, hein? Ça n'a pas d'importance. Ça fait du bien à ceux qui sont convertis depuis des lustres. Ça n'a pas d'importance. Ouais. Sentez-vous concerné ce matin. Interpellé. Non pas par la parole d'un homme, mais par l'esprit qui est en train d'agir en vous. Dans votre cœur. Je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Vous n'avez rien à craindre. L'apôtre Paul a été conduit. Il a été mené vers ce qui pouvait être le meilleur pour lui. Je te garderai, je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alors à votre tour, comme Paul, lorsque vous serez relevé de terre, eh bien vous ouvrirez les yeux des aveugles. Vous ferez sortir les captifs de prison et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Chacun d'entre nous, nous devenons des missionnaires et nous devenons, eh bien là, des agents saisis par le Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et ce matin, nous allons prier quelques instants. Et moi, je veux demander que le Saint-Esprit passe dans nos vies. Peut-être un renouvellement pour nous qui sommes convertis depuis longtemps, et pour ceux qui nous rejoignent, eh bien que vous entendiez très fort l'appel de Dieu pour lui dire, eh bien maintenant, lève-toi et suis-moi. On va prier. Seigneur, je veux te rendre grâce, et je te remercie pour ta parole, parce que c'est une belle histoire que l'histoire de Saul de Tarse qui est devenu Paul. Oui, Seigneur, son nom a été changé. Parce que sa vie a été changée. Je te demande de visiter mes amis qui viennent dans nos réunions d'évangélisation, qui sont là ce matin, ceux qui ne sont pas là, mais qui peuvent être saisis aussi. Parce que nous croyons que lorsque l'Esprit souffle, il passe partout. Seigneur, oui, je viens vers toi. Merci Seigneur, parce que tu nous appelles pour quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort que peut-être la médiocrité d'une existence qui n'a pas de but, qui n'a pas de sens, où nous ne savons pas ni d'où nous venons et ni où nous allons. Seigneur, je te demande de bénir mes amis. C'est l'Église qui te demande de les bénir ce matin, de les faire naître de nouveau, et qu'ils puissent se dire simplement, « Eh bien, ce que tu attends, c'est qu'ils puissent te dire, « Oui, Seigneur, je viens vers toi et je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te remets mon esprit entre tes mains, et je te demande, Seigneur, de faire ton œuvre. » comme celle qui nous a été dépeinte ce matin d'une rencontre sur ce chemin qui est le chemin de chacun, qui est un chemin, Seigneur, parfois, eh bien, d'incrédulité, un chemin, Seigneur, de colère, un chemin de révolte, toutes sortes de choses semblables. Oui, Seigneur, merci pour ce chemin qui est le mien, qui est celui de chacun et sur lequel, eh bien, tu viens au-devant de nous pour nous tendre la main et nous sauver. Merci, Seigneur. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.